Si je me souviens bien, nous sommes arrivés à la fin, disons, de la première étude, c'est-à-dire la définition des deux vocations différentes de Jacob et d'Ésaü. On va relire le verset 27 et le verset 28. Vaïdéloan et Aril, et les jeunes gens grandirent, et tant qu'ils étaient très enfants, le fait qu'ils soient jumeaux ne permettait pas de les distinguer dans leur, disons, dans leur vocation de métier d'homme, si on peut dire ça comme ça. Lorsqu'ils ont grandi, alors ils se dévoilent qu'ils ont une option différente dans leur identité humaine, d'après le consigne de pape que nous avons vu au début, précédemment. Alors, je vous ai traduit cela, je vais d'abord traduire littéralement. Et Ésaü devint un homme connaissant la chasse, un homme du champ. Alors, j'avais interprété cela, à travers une interprétation formulée de la manière suivante, c'est qu'on s'aperçoit qu'Ésaü a opté pour la vocation de tâche de la civilisation matérielle. Vous rappelez que l'équation de départ, cette impossibilité que nous avions vue dès le début, pour la naissance de cet enfant qui aurait dû être Israël d'emblée, est qu'il y a deux forces contradictoires qui jouent, parce qu'il y a deux problèmes à résoudre, lesquels sont, semble-t-il, apparemment incompatibles l'un avec l'autre, ou en tous les cas, qui se contrarient. La vocation spirituelle de l'homme et la vocation matérielle de l'homme. On peut, si vous voulez, ajouter d'autres couches de vocabulaire, mais c'est le même problème. Ce monde-ci, le monde à venir, la terre, le ciel, l'homme est un être qui est créé pour avoir à résoudre un problème qui semble-t-il est insurmontable pour ses seules forces, c'est d'avoir à résoudre les problèmes de la vie spirituelle et ceux de la vie matérielle en même temps. Alors vous allez avoir différents schémas qui vont se superposer les uns aux autres. C'est que l'idéal, c'est d'arriver à l'identité Israël, c'est-à-dire une créature du Créateur unique capable de résoudre dans le bien et dans la justice, je reprends les termes du Mikra, ces deux vocations, d'être tzaddique dans l'ordre de la vocation matérielle et en même temps d'être compétent et tzaddique dans l'ordre de la vocation spirituelle. Mais au point de départ, il faut d'abord comprendre la difficulté. A priori, ça apparaît comme impossible, insurmontable. Je pense que ce n'est pas nécessaire de prendre trop de temps pour analyser cela. Si une vocation spirituelle doit être sérieuse, elle doit être exclusive, apparemment, a priori, de toute gêne des tâches d'ordre matériel, et inversement, si une vocation des tâches d'ordre matériel doit être sérieuse, c'est-à-dire l'aménagement du monde matériel en monde qui vaille la peine d'être vécu, alors elle doit être aussi entière. Donc a priori, si on est bien d'accord sur les termes, c'est un problème apparemment insurmontable, qui se cherche dès l'origine de l'histoire de l'humanité, entre Caïn et Abel, vous vous rappelez, et toute la série des échecs qu'il y a eu. Non, vous n'avez pas étudié ces textes, mais enfin, vous y référez. Et encore une fois, ce n'est pas par hasard que le problème est repris dans l'histoire de la famille d'Abraham, dans des formes très analogues. Deux frères jumeaux, semble-t-il, de vocation incompatible. Comme Caïn et Abel, deux frères jumeaux de vocation incompatible. J'en profite pour une petite parenthèse que les anciens d'entre vous ont sûrement déjà suivie, mais qui me semble très importante. C'est dans tout ce récit de l'histoire de l'humanité que nous donne la Bible, il y a deux récits qui se superposent. Le premier, c'est le récit de l'identité humaine universelle, et c'est un récit pessimiste qui va toujours à l'échec, et semble-t-il d'une désespérance absolue, il n'y a pas d'espoir que ça se résolve. C'est le récit qui commence avec Caïn et Abel. Et c'est très frappant, je cherche un mot, c'est étonnant de voir qu'un récit de la Bible soit aussi pessimiste que cela. Si on prend le récit depuis l'origine, ça va de catastrophe en catastrophe, d'échec en échec, et le plus grand de ces échecs, la plus grande de ces catastrophes, c'est l'histoire du déluge. On en est apparemment si loin qu'on ne se rend pas compte à quel point c'est une catastrophe monumentale. Et voilà que c'est la Bible qui raconte l'histoire humaine comme cela. Si l'histoire humaine était laissée à ses propres forces, dans l'équation Caïn-Abel, elle n'a pas d'issue. Caïn, perpétuellement, tue Abel, et c'est un échec perpétuel. Mais voilà qu'à partir d'un certain moment, dans l'histoire que nous raconte la Bible, apparaît un deuxième récit qui reprend formellement les mêmes thèmes d'identité, mais dans un sens absolument contraire de l'optimisme, de l'espérance, d'une solution. C'est le récit de l'histoire humaine qui commence avec Abraham. Il y a deux récits, un dans l'autre. Dans le récit de Adam, il y a le récit de l'histoire d'Abraham. Et alors, c'est pas étonnant que l'on retrouve, j'allais dire des thèmes analogues, ce sont les mêmes thèmes. C'est les thèmes de l'identité humaine, mais poussés au paroxysme d'intensité d'existence, et avec comme coordonnées différentes la solution de l'espérance. Ce même problème de l'homme repris par Abraham va vers une solution. Alors, je voulais vous rappeler ça, mais puisque j'ai parlé en passant de l'analogie de ces thèmes d'identité. C'est-à-dire, il ne faut pas s'étonner de ce que l'équation Ésaü-Jacob ressemble à l'équation Caïn-Abel. C'est Abel-Caïn, il faudrait dire. C'est plus que ça ressemble. Encore une fois, c'est le même thème de l'identité humaine, apparemment insoluble dans le premier récit, et qui cherche sa solution dans le deuxième récit, intérieur au premier, et qui est le récit de l'histoire qui commence à Abraham. Je crois que d'ailleurs c'est très relié au problème de Pessard. Je vais le reprendre encore d'une autre manière. C'est-à-dire que finalement, la raison pour laquelle Israël va nous apparaître comme le sujet d'une histoire exemplaire pour l'humanité tout entière, et quelles que soient les rivalités et les ingratitudes que nous avons connues depuis qu'Israël existe, et ça continue, et c'est pas fini, eh bien, il semble bien qu'il y ait un consensus de l'universel humain que s'il y a une espérance possible, une foi possible, que le problème de l'identité de l'homme est une solution, ça passe par Israël. Et maintenant, après tout ce temps des civilisations, nous sommes bien loin du temps de commencement de l'histoire des patriarches, il y a indéniablement ce consensus dans la gratitude que j'ai parlé, et il suffit de citer ces deux côtés du monde, l'un la chrétienté, l'autre l'islam, qui, dans leur conflit de rivalité contre Israël, se basent cependant sur l'espérance d'Israël pour leur propre foi. Bon, je ne vais pas perdre trop de temps pour analyser tout cela en détail, il me semble que l'idée est suffisamment claire. C'est un peu embrayé. Je crois encore une fois que peut-être les Juifs sont les moins bien placés pour percevoir cela, et probablement par une sorte de réaction de modestie, j'ajouterais exagérée, mais inévitable. Parce que lorsque la conscience juive se rend compte de cela, que tout se passe comme si, et encore je devrais enlever ce tout se passe comme si, que l'histoire de l'humanité a cherché son espérance dans l'espérance d'Israël à partir d'Abraham, ça risque de donner le vertige. Alors les Juifs ont une réaction de tabou, de se cacher les yeux, c'est trop énorme. Pour vivre cela, alors on passe son temps dans les milieux juifs à essayer de fuir sa propre identité parce qu'elle est trop vertigineuse. Est-ce que c'est clair ce que je vous propose ? Mais en tout cas, ça nous permet d'embrayer dans ce problème. Alors je reprends le premier schéma. A priori, le problème de l'homme est insoluble parce qu'il faut s'adonner, encore une fois, à deux vocations qui sont exclusives l'une de l'autre. Et pourtant, et je le dis à l'avance pour qu'on ne se perde pas dans toutes ces analyses, la solution qui se cherche dans le récit de l'histoire d'Israël, c'est un sujet humain capable de la solution de ces deux problèmes dans le bien. Voilà, si vous voulez, le premier schéma. Quelques phrases d'explication, il me semble que j'en ai parlé il y a deux cours ou trois cours, mais pour rappeler ça, ne croyez pas que c'est une figure de style, lorsqu'on est voué à la vocation spirituelle, il faut qu'on y soit voué tout entier pour que ça soit sérieux. Il n'y a pas de place pour autre chose. Ça vous fera comprendre pourquoi il y a des personnalités limites de cette vocation Jacob qui ne serait que Jacob, l'esprit qui ne serait que l'esprit, qui refuse a priori toute idée d'un lien quelconque avec un problème de l'ordre de ce monde-ci. Mais ça, c'est Jacob, c'est pas encore Israël. Parce que c'est clair jusque-là, je crois que nous avons déjà un peu avancé dans cette analyse. C'est ce que nous avons l'habitude de dire, un véritable Talmid Chacham, c'est 24 heures sur 24 qui s'occupe de la Torah. Il n'est pas question qu'il s'occupe d'autre chose. Ça ne veut pas dire que le problème est résolu, mais j'essaye de donner la carte d'identité des deux dimensions du problème. De la même manière, un homme de la science et des techniques pour résoudre les problèmes des tâches matérielles, pour que ça soit sérieux, doit se vouer à cela. Bon, alors après, dans un deuxième schéma, bien, peut-être dans le schéma terminal, qu'on appellera peut-être le schéma Israël, je vais nuancer, atténuer cela. Mais pour bien comprendre par où passe la solution, et c'est un des grands enseignements que nous avons reçus du Rav Kook, c'est le lien entre l'individu et la collectivité. C'est-à-dire c'est à l'échelle collective de l'identité d'Israël que ce problème va se résoudre. Et le premier schéma que nous donne la Bible, c'est la relation entre la tribu de Lévi et les autres tribus d'Israël. La tribu de Lévi est tout entière et uniquement consacrée aux tâches spirituelles, en solidarité avec les tribus d'Israël qui sont consacrées aux tâches matérielles. Et si la solidarité est réciproque, le problème est résolu. Est-ce que c'est clair ce que je dis là ? Vous retrouvez d'ailleurs dans beaucoup d'enseignements des prophètes, surtout dans Malachi, à la fin de la prophétie, que lorsque cette solidarité entre le Lévite et les autres tribus est brisée, c'est la catastrophe. Dans les termes qui correspondent à nos époques, c'est entre le Talmid Chacham et le Baal HaBayit. Mais pour être Baal HaBayit, il faut être Baal HaBayit. Et pour être Talmid Chacham, il faut être Talmid Chacham. Et alors, il y a un lien de solidarité que la Gemara étudie, elle est établie d'ailleurs, Halakha. Si ça vous intéresse, vous étudierez le problème, qui fait que c'est à l'échelle de la collectivité que le problème peut être résolu. À l'échelle de l'individu, encore une fois, on ne peut pas être ange et bête à la fois. Les mots ne sont pas du tout adaptés. Okay? Mais disons, le corps c'est une bête, l'âme c'est un ange, c'est de la poésie. Okay? Mais on ne peut pas être les deux à la fois. Et cependant, c'est ça l'homme, c'est ça Israël. Et le problème est résolu, encore une fois, à l'échelle du klal. Lorsque le klal protège ses talmidei chachamim, et talmidei chachamim transfigure les baal et batim du klal. S'il n'y a pas de solidarité entre les deux, lisez le prophète Malachi. C'est bien clair. Qu'est-ce que tu veux demander ?
Je veux savoir pourquoi, comment se dit que ce soit Lévi qui se... Est-ce que Lévi est devenu serviteur d'Hachem par excellence parce qu'il fait partie du passé descendant de Léa ? Parce qu'on voit par exemple...
Il y a d'autres descendants de Léa. Il y a d'autres descendants de Léa, donc c'est pas la réponse.
Oui, non, on voit par exemple que Issachar...
Issachar, tu lis en français tout ça. Il ne faut pas oublier, mais...
Le gars, c'est dans l'étude de la Torah. Et moi, en lisant un petit peu l'Égypte, on voit qu'on a l'impression que Lévi se disqualifie avec l'histoire de Shem.
Au contraire. Au contraire. Ouais. Il ne faut pas lire à l'envers. Au contraire.
Pourquoi pas
D'abord, c'est Shimon et Lévi ensemble. Okay, ouais. Non, il ne faut pas lire les choses à l'envers. Puisque tu as parlé de ça...
On parle de ça.
C'est toujours actuel. D'ailleurs, je vais te dire, si tu fais allusion à ce que dit Jacob dans sa prophétie, dans les bénédictions des enfants, Shimon velevi achim, arur apam ki azev rotam ki kashata, c'est ça que tu fais allusion. Alors, il faut d'abord se référer à l'histoire telle qu'elle nous est racontée par le livre de ce qui s'est passé à Shrim. Vous voulez qu'on parle de ce problème? Vous avez compris la question? Okay. Quand tu n'as pas fini ta question.
Non. Et on fait la
réparation
avec
Zablon. Il se résout. C'est le même thème. C'est-à-dire, cette solidarité entre Issachar et Zablon, le thème principal, le modèle, c'est la solidarité entre Lévi et les autres tribus. Okay. Lévi est à part des autres tribus. Quand vous apprendrez plus, 40 ans d'études, vous verrez à quel point les Chachamim nous ont montré cette différente identité. Aujourd'hui, nous vivons, depuis la destruction du temple, depuis la fin de la prophétie, dans un temps neutre, une grisaille, floue, diluée. On étudie par le Sechel ce que la Torah dit de l'identité d'Israël, mais lorsque nous devons faire la comparaison avec la manière dont nous le vivons dans l'existence, il faut savoir qu'entre-temps, il s'est passé quelque chose. L'arrêt de la prophétie, la destruction du temple, tout ça vous aurez le loisir d'étudier, ce qui fait que nous sommes dans un temps du monde qui est une nuit par rapport à ce dont parle la Torah dans la clarté. Alors, quand je vous dis ces comparaisons, Lévi, je vous parlais surtout du Kohen, Lévi, c'est le Talmid Chacham, et puis les Baal et Batim, c'est les autres tribus d'Israël. Ça ne veut pas dire que les Baal et Batim ne doivent pas manger kasher. Et pour pouvoir manger kasher, il faut qu'ils étudient le Shulchan Aruch. Et pour comprendre le Shulchan Aruch, il faut qu'ils étudient un peu de Torah, quelques heures par jour. Mais ce n'est pas ça, Talmid Chacham. C'est ça la différence. Okay, de la même manière, est-ce que c'est clair ce que je vous dis? Mais ce qu'on appelle Torato Umanuto, un Talmid Chacham, son art, son industrie, son artisanat, c'est la Torah. Torato Umanuto. C'est aussi Emunato. Je n'ai pas oublié. Et bien lui, c'est 24 heures sur 24, il est dans un Olam dont personne n'a idée autour de lui. Il vit la vie de Olam Abba dans ce monde-ci. Alors dans l'apparence, il vit dans le même monde, horizontalement, mais en réalité, il est ailleurs. Et est-ce que c'est clair ce que je dis là ? Alors le modèle, c'est le Kohen. Et c'est à ce propos que je voulais vous dire, expliquer cela, que nous vivons des choses diluées. Nos Kohanim, il y a toutes les madrigotes, mais c'est des Kohanim, nos Kohanim aujourd'hui, depuis. Eh bien, c'est des Kohanim dilués, si j'ose dire. D'ailleurs, nous sommes des Juifs dilués, nous sommes des Hébreux dilués à l'échelle individuelle. Et il ne faut pas oublier qu'il y a toutes les madrigotes. Plus un homme a une neshama klalit, c'est-à-dire une neshama d'ordre plus klal, plus collective, alors il est plus kadosh. Mais plus on va vers l'individu individualisé, on va vers comment dire ça sans être péjoratif, on va vers une identité diluée. Alors si c'est peut-être pas tellement l'idée de spécifique, c'est oui, c'est aussi l'identité spécifique. Si vous voulez, c'est la différence entre le prat et le klal. Le klal est d'emblée Eloki, kadosh. Le prat, eh bien, c'est cette créature qui, à l'échelle individuelle, est un parmi les Baal et Haïm. Alors quand il a une neshama plus ou moins intense, c'est un homme et plus ou moins homme. Et alors on rencontre des individus qui ont une neshama klalit. Et par exemple le Kohen au temps de la Torah, on les appelle des Yechidim, c'est pas pour rien, ils sont à tout seuls une neshama klalit. Alors il faut savoir que c'est rare depuis que nous sommes sortis du temps biblique. Et nous vivons depuis longtemps ce temps, d'après la prophétie, après la Hurban du Baït. Et alors, je voulais donner l'exemple du Kohen. Eh bien, vous savez très bien qu'un Kohen est d'identité différente du reste d'Israël. Dans Israël, on ne devient pas Kohen. Est-ce que c'est clair ? Et alors, même si cette identité Kohen est restée à l'échelle infinitésimale dans un de ses descendants, ce n'est pas du tout perceptible, mais elle est là, cachée. Mais c'est différent de nature d'avec un autre Israël. Est-ce que c'est clair ? Par exemple, on peut se convertir à l'identité Israël, on ne devient pas Lévi au Kohen. Lévi au Kohen, c'est par hérédité. Par exemple, et ça, les Talmid Chachamim le savent, lorsqu'on a une Sheela difficile et qu'on a deux possibilités à demander à deux rabbins, on préfère la demander à un rabbin qui est Kohen aussi. Ça ne veut pas dire que l'autre est disqualifié, mais c'est que le premier est Kohen. Est-ce que c'est clair ce que je dis ? Il y a une kedusha différente, par exemple, pour les lois du mariage. Vous savez que le Kohen ne doit pas épouser une divorcée, mais une veuve, il a le droit d'épouser. Seulement, le Kohen Gadol, même une veuve, il n'a pas le droit d'épouser. Vous avez étudié ce Torah, hein ? J'ai étudié cela. Bon. Ça veut dire que pour un Stam Israël, un divorce, ça suffit pour couper les liens qu'une femme avait avec un homme. Et elle est Pnouya, disponible pour se marier avec quelqu'un d'autre. Pour un Kohen, ça ne suffit pas. Ça veut dire que la Neshama du Kohen a une Kedusha telle que le divorce ne coupe pas ce lien pour lui. Et une divorcée est encore mariée avec son ex-mari pour le Kohen. Une veuve, non. Parce que la mort, c'est plus fort que le divorce. Dieu préserve. Vous comprenez ? Mais un Kohen Gadol, même pas la mort. Donc pour un Kohen Gadol, il fallait une Betula. Vous voyez, d'où ça vient cela ? C'est un exemple parmi d'autres. C'est que ce sont des neshamot d'une qualité différente. Et alors, vous allez dire, à quel écart, je rencontre un monsieur Cohen dans la rue, c'est ça ? Oui, c'est ça, caché, infinitésimal, dilué, mais c'est ça. On n'y peut rien, c'est comme ça. De la même manière, je ne sais pas comment vous dire, un éléphant, ce n'est pas une fourmi.
Sa neshama, elle est de qualité différente ou de nature différente ?
C'est la même chose.
Donc, qualité, on peut éventuellement améliorer une qualité, une nature.
Hein. Alors, de nature différente. Quelle que soit la qualité. Un biscuit d'orge, c'est pas un biscuit de blé. Quelle que soit la qualité. Et. Vous connaissez toutes ces histoires que raconte le Talmud. Il y avait un guerre qui a voulu être guerre parce qu'il avait entendu les habits du grand prêtre. Hein. Alors il a dit, je veux me convertir, c'est tellement beau les habits du grand prêtre. Alors le rabbin a dit, apprends d'abord. Il lui a appris les habits du grand prêtre, il a fini par apprendre que seul le grand prêtre avait le droit aux habits du grand prêtre. mais c'était tellement beau quand même qu'il s'est converti. Alors que son maître lui a dit, un roi d'Israël ne peut pas être grand prêtre, et toi tu vas être grand prêtre. Ça veut dire que ce n'est pas du racisme vis-à-vis des goyim. Même vis-à-vis du roi d'Israël, ce n'est pas possible. C'est clair. Alors c'est pour ça que je dis, il faut bien faire attention à cela. Le Lévi, c'est l'homme de la vocation spirituelle. Sans rentrer trop dans les détails, et par ricochet, on va parler un peu de Shrem, si tu veux. Et alors, vous voyez bien la législation du Lévi pour la Torah, sans parler du Kohen. Il ne doit pas avoir de participation aux problèmes économiques. C'est clair ? Parce qu'il doit se consacrer à sa propre vocation. Et seulement, il faut lui donner le maaser.
Ça, c'est a priori. Non. C'est a priori ou a
posteriori ? De la fête du Rodor. Non, toutes les façons, c'est le cas du Bechor. Hein? Alors, tout Israël est dans le principe Bechor. Alors, cette identité, ce privilège, qui bénit Bechori Israël, d'ailleurs, c'est le problème entre Jacob et Esaü, qui est le premier-né des deux, il va falloir attendre, dit la Gemara, la sortie d'Égypte pour savoir que c'est Jacob. Béni Bechori Israël, ça confirme que c'est pas Esaü, mais que c'est Jacob. Retenez cela à propos de Pessah. Hein? Béni Bechori Israël, ça a été dit à la sortie de l'Égypte. Alors, tout le problème de savoir qui est le vrai Bechor entre Esav et Yaakov ne va se résoudre que quand Israël sort d'Égypte. Alors là, il se dévoile que c'est la descendance de Jacob, qui a posteriori dévoile que c'était Jacob le véritable Bechor. Mais je vous ai prévu, on va voir 70 schémas différents qui vont se superposer. Pour le moment, on est dans l'analyse du premier. Et alors, il faut savoir que cette histoire de Shrem, elle nous est racontée quand Jacob est encore Jacob. Okay. Et alors que les Shimon et Lévi répondent à Jacob, à Nevala, il y a assez Béisraël. Cette chose-là, ça ne peut pas se faire en Israël. Jacob est prêt à négocier avec Shrem. Tandis que les frères de Dina interviennent, Israël, pas possible. D'accord. C'est une première approche. Est-ce que c'est clair ou vous voulez qu'on voit le texte en détail? Okay. Maintenant, je vais commencer par un chidouche. Et j'avoue que je ne peux pas vous dire de qui je l'ai appris. Peut-être c'est de moi, mais je ne sais pas. Sur la bracha de Jacob à ses fils, quand il dit Shimon et Lévi, Achim. Shimon et Lévi, ils sont frères. Le Midrash intervient, frères. Ils sont tous frères. Non, ils sont les frères de Dina. Et il s'agit de l'épisode de Dina. C'est clair jusque-là ? Alors, le verset continue. Arou, Rapam, Giaz, maudite est leur colère, car elle est forte. Et Evratam qui cachata, et leur courroux parce qu'il est dur, Achalekem Be'akom, Be'akom je l'ai dispasserai, Achalekem, dit, non, Achalekem, diviserai, Achalekem Be'akom, Vafitzem Be'Israël, et je les disperserai en Israël. Oui, il y a toujours ces deux niveaux. Ça, c'est l'objet. Ça veut dire que puisque la qualité propre à Shimon et Lévi, dans ce problème est trop forte, alors on va la diluer dans tout Israël. C'est le chat, c'est clair ? Ça ne veut pas dire qu'il les a maudits. Il a maudit leur colère quand elle est trop forte. Et ça, c'est le chidouche que je voulais vous expliquer. Vous allez le lire en hébreu. Arou Rapam ki az. Quand est-ce que Arou Rapam ki az ? Quand elle est az. Ve'evratam ki kachasa. Vous savez que le ki, on peut le lire soit parce que ou soit quand. Ken ? Je vous donne un article. Comment ? Car, parce que, ou bien quand ? Lorsque. C'est clair. Alors, ici, le pshat habituel, c'est parce que. Mais, lisez bien clairement, il s'agit de Jacob parlant de ses fils au moment, comment dire, le plus prestigieux. Il va mourir, il bénit ses fils, et il se rappelle l'histoire de Dina. Donc, c'est l'ostam. C'est pas rien, cette histoire. De quoi il s'agit ? C'est clair ? Bon. Alors, avant d'arriver là, je vais donner un autre exemple. Sur un autre ridouche de cet emploi de qui. Ça veut dire, c'est systématique dans le Midrash. C'est Vediber Hashem el Moshe Panim el Panim Kaasher Yedaver Ish el Re'eu. Le pshat, c'est et Dieu parle à Moïse face à face comme un homme parle à son ami. Okay? Et le ridouche que je vous cite, c'est tout à fait autre chose. C'est quand est-ce que Dieu parle à Moïse face à face, Kaasher Yedaber Ish el Re'eu, quand un homme parle à son ami. Vous avez vu qu'on a changé de sens. Okay. Ça veut dire si. Bon, c'est pas la peine d'analyser trop. ça nous ferait un darouche de 4 heures. Alors, je pense que vous avez saisi le sens. Et alors, pour revenir donc à l'histoire de Schrödinger, qu'est-ce qui s'est passé? Alors, prenez le texte, puisqu'on l'avait reçu. Vous l'avez au chapitre 32, 33, je vais dire tout de suite. Non, attendez. C'est peut-être 34. Voilà, regardez ce qui se passe. Prenez dès le début du chapitre 34. Ben, je ne me proposais pas de vous parler de ça, mais je crois que ça vaut la peine. Vous y êtes, chapitre 34, la Madeleine. Alors, qu'est-ce qui se passe juste avant? Entre-temps, Jacob et Ésaü se sont rencontrés, et finalement, Jacob a vaincu Ésaü, tout ça nous reviendra plus en détail par la suite. Ésaü se sépare de Jacob. Alors, vous prenez le...
Il y avait Israël déjà.
Jacob a été deux fois appelé Israël. Et alors... Et nous verrons pourquoi le texte l'appelle de nouveau Jacob. Alors, prenez le texte à la fin du chapitre 33, verset 18. Non, d'ailleurs, il n'est pas déjà appelé Israël, dans tous les cas. Tu vérifieras. Il n'est pas encore appelé Israël. Mais tu vérifieras. Oui, c'est le chapitre 32. L'ange de Ésaü l'appelle Israël. Mais il ne sera appelé Israël par Dieu que plus tard. Avec d'ailleurs cette clause, ton nom ne sera plus Jacob, mais Israël, c'est le texte qui suit. Et malgré ça, la Gemara, à la fin du premier chapitre de Brachot, dit bien que Jacob a changé son nom en Israël, le nom de Jacob a été changé en Israël, le verset peut de nouveau l'appeler Jacob, et nous verrons tout à l'heure dans quelles conditions, parce que ça concerne la Gada de Pessah aussi, alors que pour Abraham, c'est différent. À partir du moment où Abraham est appelé Abraham, on n'a plus le droit de l'appeler Abraham. Est-ce que vous avez étudié ce texte? Non. Peut-être si... Vous me rappellerez après Pessah qu'on le voit très en détail dans la Gemara. Okay. Mais je donnerai simplement une indication tout à l'heure pour la Gada de Pessah. Alors prenez verset 18 du chapitre 33. « Vayavo Yaakov Shalem Irshrem » Après la lutte entre Jacob et l'ange d'Ésaü, la séparation entre Ésaü et Jacob, vous lirez le texte, voilà ce que nous dit le texte. Et Jacob arriva, Shalem, parfait. Entre-temps, il avait été touché à la hanche. Vous vous rappelez? Tout le problème du Guidanach. Il arrive parfait. Et vous verrez d'ailleurs par vous-même ce que dit Rashi, pourquoi il le dit comme ça, mais j'avance. Irshrem, à la ville de Shrem. Alors, premièrement, il faut mettre en évidence que ces choses-là ne se font pas par hasard. Okay. Jacob sait où il va, et on verra tout de suite. Après la rencontre avec Ésaü, le règlement de compte avec Ésaü, qui sera différé jusqu'à la fin des temps, mais qui est déjà indiqué ici, Jacob triomphera d'Ésaü. C'est différé, relisez Malachi, on va dire à Malachi, c'est différé jusqu'à la fin des temps, mais on est assuré que cette victoire aura lieu. Il va à Shrem. Or, le premier endroit où Abraham est allé en Eretz Israël quand il revient au Kazim, c'était l'endroit de Shrem. Shrem n'était pas encore construite, mais la Torah tient à nous dire que c'est à cet endroit-là qu'Abraham est revenu. Vous voulez le verset pour Abraham? Je vous le donne. Amakom Shrem. C'est Vayera. Non, le Lechecha. Je vous donne le verset. Vous voyez pourquoi il faut apprendre tout par cœur. Mais pour ça, il faut avoir du cœur. Il y avait un certain nom, Rafa, il s'appelait Rodrigue, il avait du cœur. Alors, c'est ça. Je crois que ça doit être au début. Attends, il faut qu'on le trouve, ce verset. Voilà, c'est le verset 6 du chapitre 12. Tout au début de l'histoire d'Abraham. Vayavo Abraham Baaret ad mekom Shrem. C'est clair? Vous y êtes? Voilà, alors regardez ce que dit Rachida. Ad mekom Shrem. Lehit palel al bene Yaakov. Pour prier pour les enfants de Jacob. Keshéavo Leilachem Bishrem. Quand ils viendront guerroyer contre Shrem. Vous y êtes? Ça veut dire, dès le début, on sait qu'il va se passer quelque chose là-bas. Et le Midrash intervient en nous disant, Jacob, en arrivant dans le pays, doit faire une halte à l'endroit de Shrem, et Shrem n'est pas du tout encore existant. L'endroit de Shrem, comme Moukham l'a pour Hamout, là où il se passera des choses difficiles. Et qu'est-ce qu'a trouvé Rashi à citer? Parce qu'il va se passer une histoire entre les enfants de Jacob et la ville de Shrem. Donc, je vais mettre après là-dessus. Alors vous voyez que Jacob sait très bien où il va. Il ne va pas n'importe où au pays, il va à Shrem. Asher Beretz Knaan. Alors là, c'est vraiment une énigme. Est-ce qu'il y a Shrem ailleurs qu'en Eretz Knaan? Et Makom Shrem, et Shrem, Asher Beretz Knaan. Je vous donne ça comme question pour le service CD. Vous demanderez au chef de table. Qu'est-ce que c'est ça, Shrem, Asher Beretz Knaan? Mais bon, il parle en arabe. En venant, il parle en arabe. Oui, chaque indication est très importante, d'après ce que nous avons déjà étudié. Okay.
C'est sa route.
Yeah. Hein?
C'est la route d'Abraham.
Oui, mais pourquoi toutes ces indications nous connaissons? Okay. Ça veut dire, rappelez, l'important du mot Aram dans le verset qui indiquait la difficulté pour lui faire l'emprunter. Okay. Alors, il faut se dégager de cette culpa de Aram. En venant, dans sa venue de parler en arabe, il faut aller une halte de désintoxication à Shrem. On ne sait pas encore ce qui se passe là. Mais je vais mettre en évidence le fait que la Torah nous montre que les patriarches savaient où ils allaient quand ils arrivaient là-bas. C'est clair? Vayehan et Penehai. Comment vous allez traduire? Il y a une mara fantastique. Vayehan et Penehai. Traduisez. Fouchad. Et il campa. Il campa à côté de la ville. Seulement, comme c'est écrit de. Le sens c'est Asa Hanina Laïr. Il a mis une grâce sur la face de la ville. On a changé de sens. Je reprends. Vaïhan et Penehaïr, le chat, s'il a campé à côté de la ville. La Gemara intervient et dit comme c'est écrit, il faut le lire autrement. Vaïhan et Penehaïr. Il a mis une grâce, Hanina, Hen, Ken, sur la face de la ville. Mais on va voir quoi. Et c'est rattaché à notre thème, beaucoup plus général, qu'on apprend déjà du premier homme, qu'on n'a pas le droit d'habiter quelque part sans y apporter une grâce. Pour mériter d'habiter quelque part, il faut apporter un tikkun. On apprend déjà du premier homme, que Dieu a mis le premier homme dans le monde, l'Eavda ou le Shomra. Il faut faire un tikkun quelque part pour avoir le droit d'y habiter. Est-ce que c'est clair? Et on va l'apprendre du texte. Vaïken et El Katasade. Il se lâche un tikkun vers quel. Mais je reviens à la Gemara, c'est très important. Qu'est-ce qu'a choisi la Gemara de dire? Qu'est-ce que cette grâce que Jacob a fait à la vie? C'est ceci.
Abraham ou Jacob?
Jacob, on est dans Jacob, chapitre 33. Quoi, j'ai dit Abraham?
Quand on parlait d'Abraham qui est arrivé dans la ville?
On a dépassé il y a longtemps. C'était le grand-père. Non, Abraham est arrivé à l'endroit de Shrem.
C'est tout? Dis ce que ça veut dire.
Et je vous ai cité Rashi, Shrem, il s'est arrêté là-bas pour prier pour les enfants de Jacob, qui auront un problème avec Shrem qui n'existe pas encore. Maintenant on est avec Jacob. Alors la Gemara de Shabbat, vous l'avez cité, de quelle grâce Jacob a fait dans la ville, il a installé trois choses. Ravama, Malpéar, Tikenaïm. Il a réinstallé la monnaie. Et les banques, c'est les juifs qui ont toujours mal. Et puisque nous sommes les médiateurs des valeurs, on devient les intermédiaires des valeurs bancaires. Non, non, mais c'est pas une blague. Il y a une fonction de médiateur des valeurs dans l'identité israélienne. Ça se traduit comme ça se traduit. Mais en tout cas, c'est le premier signe de la civilisation. Matbea, la monnaie. Shmuel, il a une autre idée. Shmuel Amar, je vois qu'il est Tikenaïm. Il a réinstallé les contrats des marchés. Et Rabbi Yochanan Amar, Melchatzaot, Tikenaïm. Rabbi Yochanan dit, il a réinstallé les bains. Bon, voilà une Gemara. Les bains. Les termes. Avec un âge. C'est-à-dire les bains chauds. Hammam. Et alors, voilà un exemple d'une Gemara étonnante. De quoi on est parti ? Que Jacob a campé à côté de la ville, mais comme c'est écrit, la Gemara a appris qu'il avait installé les banques, les marchés et les bains. Et alors, nous avons une Mishnah, qui est la première Mishnah, la Maseret Kiddushin, qui dit qu'il y a trois manières pour la procédure du mariage. C'est Kesef, Shtar, Bebir. Alors, vous savez ce que c'est ? Ça veut dire que Jacob avait un problème, il devait marier sa fille. Là où il arrive, il réinstalle la halakha du mariage. Matvea, Kesef, Shtar, Shvatim, et Bia, il faut l'annuler. T'as compris ça ? C'est ça ? Attends, je vais expliquer plus. On va le voir. Jacob arrive à Shrem. Quel est le problème qu'il a à résoudre ? Il avait 12 garçons et une fille. Il faut trouver un mari pour lui. Alors, avant toute chose, oui, je t'ai cité une Gemara. Okay. Avant toute chose, il installe les lois du mariage. Et qu'est-ce que ça veut dire apporter la civilisation quelque part ? C'est apporter les lois qui règlent les rapports d'autrui à autrui. Ça commence par le mariage. Et donc, lorsque, à un certain niveau, on dit Jacob, eh ben, il a installé le commerce. La Torah, plus profondément, nous indique, la Gemara, il a installé la morale. Et alors, simplement, réfléchissez et étudiez vous-même à la loupe le parallèle entre cette Gemara. Il nous dit voilà les trois choses que, et d'abord pourquoi trois, que Jacob a installé à Shrem, et la Mishnah de Gemara de Kiddushin, les trois procédures du mariage. Okay ? Parce que plus tard, quand Shrem va demander des dîners en mariage, on va avoir des expressions bizarres dans le texte. Il va lui parler de Ktuva, il va lui parler de Moharb et tout l'autre. Vous vous rappelez le texte, okay ? Où ils ont appris la halakha de Kiddushin ? C'est-à-dire que c'est la première chose que Jacob a instituée dans la vie. Ça va jusque-là. Donc, et voilà, et le commencement de ce récit, c'est que Jacob cherche un endroit où il pourrait peut-être trouver un mari pour Dina. Verset 19, « Vaïkeneh kadasale » il acquérit Kano. De là, le midrash que j'ai cité, il a choisi Tikkun. Il a acquis la partie du champ « Ashanata Shamaolo » où il avait planté sa tente. Miyad ben Hamor, de la main des fils de Hamor, Abi Shrem, qui est le père de Shrem, ben Akisita, par son une pièce de monnaie qui est là. Bon, Vaïtseb, Sham, Misber, Vaïkraloel, le pays d'Israël, c'est énorme, et il a installé un hôtel, et il a invoqué le nom du Dieu d'Israël. Je referme la parenthèse, c'est la fille de Sipar. Alors, juste après, chapitre 34, Vatet, Zedina, Vatéa, Acharel, Vatéa, Akour, l'Ira du nom d'Arabie. Voilà ce que la Torah commence à nous raconter. Et Dina, fille de Léa, que Léa avait enfantée à Jacob, on sait qu'elle est la fille de Léa. Et on sait que c'est la fille que Léa a enfantée à Jacob. Elle est allée voir les filles du pays. Mais avant cela, c'est le texte qui nous met le doigt sur le problème. Elle devait naître garçon et il y aurait eu 13 chefs de tribu. Il y a des raisons que le Midrash explique pour lesquelles elle est née une fille. C'est la fille que Léa a donnée à Jacob. Et alors elle va voir les filles du pays. Pourquoi ? Pour savoir avec qui on se marie. Et qu'est-ce que va faire une jeune fille de la maison de Jacob chez les princesses du pays ? Eh bien, elle va chercher le prince charmant.
Même si les gosses ?
Hein ?
Même si les gosses.
Justement, c'est ça qu'on est en train d'étudier. Et alors, c'est-à-dire, imaginez la scène, le monde entier. Qu'est-ce qu'il y a comme hébreu épuré ? Jacob et ses fils. il y a une fille avec qui on va la marier. Alors on va essayer de chercher le goy avec qui on va la marier. On a cru le trouver dans Shrem. On a trouvé un demi-barbare. Mais j'ai peut-être fait ça par la suite plus loin. Pour arriver à ce verset de Jacob et Lévi. Regardez ce que dit Rashi sur ce verset 1 du chapitre 34. Bat Léa, Vélo Bat Yaakov. Là, dans la Rashi, apparemment difficile, et si on ne rattache pas au sujet général. Regardez ce que dit Rashi. Pourquoi le texte l'a appelé fille de Léa et pas fille de Jacob? Al-Shem et Tziata, à cause de sa sortie, comme on dit être de sortie, chez les filles du pays. Nikre et Bat Léa, elle a été nommée fille de Léa, chez Afi Yatsani Taïta, car elle aussi avait l'habitude de sortir dans les rues. Et Chenema, Batet Zeléa Lifatou, pour la descente d'Issachar. Léa est allée à la rencontre de Jacob pour lui dire cette nuit m'appartient, et ça s'appelle Yatsanit. Et vous voyez, on risque de ne pas comprendre ce que le Midrash que c'est Rashi. Est-ce que vous croyez que le Midrash ou Rashi vont sortir un chenarar sur Léa et Dina? Ça veut dire que le temps est arrivé qu'il faut que Léa ait une initiative pour Issachar naisse, alors l'initiative vient d'elle. Le temps est arrivé où il faut trouver le chef de la 13e tribu et l'initiative vient de Dina. C'est-à-dire que c'est le Sheba, c'est pas l'Ignaï. Et alors,
c'est
l'Ignaï, c'est
le Sheba.
Ça, c'est le Sheba. Et bon, j'espère que c'est suffisamment clair. Et ça, vous retrouvez toute l'histoire qui va mener à la naissance du Mashiach. C'est l'initiative de Ruth par rapport à Boaz. Mais qui a pour modèle l'initiative de Tamar par rapport à Judas. C'est la raison pour laquelle, lorsque le verset va bénir Ruth, il l'a béni au nom de la bénédiction de Tamar, qui a pris l'initiative qui a fait que Judas viendra le Mashiach. L'initiative vient de Tamar. De la même manière ici, l'initiative vient de Dina, comme elle est venue de Léa. C'est clair jusque-là? Bon. Il faudrait que vous voyez, je crois que vous avez un secret de Dari, tout ce que la Gemara dit sur cette vertu et ce courage de Léa qui a fait que Issachar a pu naître. Et à ce moment-là, la Gemara dit, et c'est pourquoi Rachel s'en est d'Aroche, Baïm et Issachar. Les plus grandes tribus de la famille d'Israël sont venues de cette tribu d'Issachar, dont la naissance est provoquée par le fait que Léa a dit à Jacob, cette nuit est à moi. Vous avez compris ce qui se passe? Alors c'est très clair. Tout ce récit commence, Jacob cherche un gendre pour Dina. Et c'est pour ça qu'il va à Shrem. Alors il y a bien ce qui se passe. Vayar Otam Shrem ben Hamor. Et l'a vu Shrem, fils de Hamor. Ahivi, Ahivi, ce goy-là, Ahivéen. Nesiaves, prince de la terre. Vayikach Ota, il l'a pris. Vayishkav Ota, et il l'a violé, violenté. Vayanea, et il l'a violé. Avant d'arriver. Et alors, c'est là que les frères réagissent. Et que Jacob, lui, cherche des négociations avec le ministre des Affaires étrangères de l'Amérique du Sud. Mais, je reviens au problème. À côté du monde de l'Arabie. C'est là qu'on apprend la différence entre Jacob et Israël. Alors, qu'est-ce qui se passe? Voilà. Vous avez appris ce qui est en Une de ces catastrophes morales dans l'histoire du début de l'histoire de l'humanité, c'est quand Caïn a construit une ville et il a donné à la ville le nom de son fils, Hanan. Vous rappelez? Prenez le verset. C'est le chapitre 4 de Bréchit. Verset 17 du chapitre 4. Vayeda Caïn et Tisto, et Caïn connut sa femme, Vatahar elle conçut, Vatele de Hanor, elle enfanta Hanor. Vayi Boneir, et il fut construisant une ville, c'est Caïn qui construit une ville, Vayikra et Shemaïr Keshem Benochan, et il nomma le nom de la ville comme le nom de son fils Hanor. Ça nous a étudié l'année dernière. Alors là, il y a une dégradation dans l'état moral de l'homme.
C'est une dégradation qui est arrivée à peu près à
Voilà. Non. Je reprends ça très brièvement pour ceux qui n'ont pas étudié cette étude. On arrive à une étape de la dégradation morale de l'humanité. Jusque-là, c'est l'homme qui est nommé. À partir d'un certain moment, on va prendre le nom à l'homme et on le donne à la ville. Ce qui se passe, c'est qu'on substitue le problème de l'administration impersonnelle de la cité au problème moral des rapports entre hommes. Je dis ça très schématiquement, mais je voudrais être sûr que vous avez suffisamment bien compris. Le fait que Caïn donne à la ville le nom de son fils est un échec.